Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir Nathalie Léger, nous sommes ravis de vous accueillir de nouveau à la librairie Mola. De nouveau, puisqu'il y a 3 ans déjà, vous étiez venu nous voir pour nous parler de l'exposition, ce merveilleux petit livre sur la comtesse de Castiglione, qui avait remporté le prix Lavinal à l'époque, notre prix de lecteur. Et dont nous sommes très très fiers.
Mais et moi donc, c'était un vrai privilège et un vrai plaisir parce que je découvrais Bordeaux à ce moment-là. Donc c'est un double très beau souvenir.
Alors aujourd'hui, ce soir en tout cas, vous êtes là pour nous parler de votre nouveau livre. Alors apparemment, vous aimez cette forme-là, puisque c'est un petit roman, exactement de la même taille que l'exposition, le même format, le même éditeur, évidemment, TOL, pour ne pas le nommer. Et il s'appelle « Supplément à la vie de Barbara Loden ». Alors, je vais essayer de vous en parler un petit peu en quelques mots, de vous le présenter. Alors, évidemment, Nathalie va sûrement en rajouter un petit peu plus, mais moi, je vais vous faire un petit résumé rapidement du livre pour ceux qui ne l'ont pas lu. Alors, le supplément à la vie de Barbara Loden raconte, en effet, l'histoire de 3 destins de femmes. En tout cas, on peut le voir comme ça. En tout cas, à commencer par le destin de Barbara Loden, qui était une actrice américaine des années 70, qui était la deuxième femme d'Elia Kazan, et qui a fait un seul film dans sa vie, enfin en tout cas qu'il a réalisé, un seul film qui est devenu un film culte pour les amoureux du cinéma, qui s'appelait Vanda. Et Vanda a été le film de sa vie. Et en fait, on peut dire que, en quelque sorte, que ce récit, c'est un petit peu une mise en abîme, un récit à tiroir, puisque Barbara Loden a écrit et réalisé ce film pour chercher quelque chose qui se rapprochait un petit peu de sa vie, on peut dire ça comme ça. Et Vanda donc est un film qui raconte l'histoire justement d'un fait divers des années 60 qui avait complètement bouleversé à l'époque. Et c'était le récit de la vie d'une femme qui s'appelait Alma Malone et qui a vécu une chose assez horrible, puisqu'en fait, elle a suivi une espèce d'errance un petit peu désastreuse, un petit peu à la manière de Vanda, qui va la conduire à une espèce de hold-up raté dans lequel son complice va trouver la mort. Voilà. Bon, ça, c'est l'histoire très, très, très rapidement, évidemment. Voilà. Donc, en gros, ces 3 destins...
Comme le dit Barbara Loden, ce n'est pas simple.
Non, ce n'est pas simple.
De raconter une histoire, c'est vrai.
C'est 3 destins, en fait. Voilà, c'est l'histoire de Barbara, de Alma et de Vanda. Voilà. 3 destins de femmes qui sont liés par une espèce de mélancolie. Voilà, une mélancolie et puis peut-être une blessure secrète.
En tout cas, il y a un enchâssement de figures, puisque à ces 3 figures de femmes, je crois qu'il est important de rajouter celle de la narratrice, c'est-à-dire que le fil narratif se construit à partir des interrogations, à partir d'une enquête. Déjà, il s'agit d'une enquête ou d'une quête, on pourra y revenir, et qui s'appuie sur quelques figures, sur le mode de l'enchâssement, quelques figures de femmes, pour explorer un territoire qui est celui du sentiment. Je crois n'avoir fait que, ça n'est pas modeste de dire ça, mais je crois n'avoir fait que ce que Barbara Loden a fait avec Vanda, c'est-à-dire désigner des personnages qui vont vous aider à explorer quelque chose de soi qu'on ne connaît pas au début, qu'une enquête pourrait éclairer, mais comme il s'agit plutôt d'une quête, on n'est pas sûr à la fin que ce soit si évident, si aisé, que les réponses soient si évidentes. Je veux dire par là que la différence entre une enquête et une quête, J.B. Pontalis, qui était là récemment, m'a posé la question, ou plutôt a émis l'idée, il m'a dit « Ah, mais ça n'est pas tout à fait une enquête, c'est plutôt une quête. » Et je cherchais. Et puis, je me suis dit, ou rappelé peut-être pour l'avoir lu quelque part, mais ça me semblait assez, assez fondé, que voilà, une enquête, c'est ce qui se déplie jusqu'à trouver la solution à l'énigme initiale. La quête, il n'est pas sûr que la question de la solution soit centrale, qu'elle soit peut-être même pas initiale, et qu'en tout cas, à la fin, ce soit plus du tout cette question-là qui importe, mais une autre qui elle-même... la non-réponse étant sans doute un des chemins du roman contemporain, si on essayait de définir ce qu'est le roman contemporain. Mais oui, j'ai essayé de faire ce que Barbara Loden a fait avec Vanda, c'est-à-dire interroger l'énigme de soi par rapport au monde et sur un terrain qui est celui de l'intime, de l'ordinaire. On a souvent dit, j'ai lu d'ailleurs quelque part que Vanda était une héroïne, que ce récit était une écriture non faustienne. Bon, en tout cas, je croyais comprendre qu'il s'agissait d'une anti-héroïne, c'est-à-dire celle à qui n'arrive pas grand-chose, si ce n'est ce qui me paraît essentiel. Une expérience intérieure oui, l'expérience d'un désastre intérieur. Voilà l'objet de ce supplément. Et le mot de supplément est à la fois très, très ambitieux. Écrire un supplément à la vie de quelqu'un qui a existé. Et en même temps, je crois... très, non pas respectueux, c'est pas la question, mais très attentif à cette vie. Le supplément, c'est ce qui est aussi dans les interstices, dans les intervalles. Et c'est cette attention à ce qui est présent dans les interstices de la vie de Barbara Loden qui m'a intéressée. D'autant qu'il s'exprime à travers ce personnage... énigmatique de Vanda.
Oui, justement, Vanda, ce qui la caractérise, c'est son absence de réaction face aux événements, une espèce d'abandon, une espèce d'absence. On peut dire ça comme ça, voilà, une absence. Comme si, en fait, c'était retiré en elle-même.
C'est une femme qui part. On la voit au début du film, donc Vanda étant le personnage construit par Barbara Loden. On la voit au début dans un paysage minier, une maison très, très modeste, et elle est sur un lit de fortune, et tout le film, voilà, elle s'éveille au début du film, et tout le film est une sorte d'itinérance à travers ce paysage minier. On peut même pas dire qu'elle est à la recherche de quelque chose. Il n'y a rien de téléologique, il n'y a pas l'idée, c'est assez peu romantique comme voyage. Elle n'est pas à la recherche d'elle-même, elle n'est même pas à la recherche d'elle-même. Et elle se laisse traverser dans une passivité, dans une soumission, elle se laisse traverser par les événements. Et cette passivité, cette soumission, elle n'est pas paradoxale, je crois. Une apparente soumission ou une apparente... Elle est fondamentale, elle est là. Alors, je crois qu'il y a une vérité à cette passivité, et c'est ce que j'essaye d'explorer. Non pas de révéler, non pas d'analyser, mais de faire apparaître. Il y a une vérité à ce qu'on pourrait... croire être de l'indifférence aux événements, de l'indifférence à l'humiliation. Cette Vanda, elle est seule, elle a visiblement pas un rond dans son porte-monnaie, le peu qu'elle arrive à emprunter, elle se le fait voler, enfin bon. Et face aux événements, comme face aux êtres qu'elle rencontre, et notamment aux hommes, elle est totalement défaite. Il y a sans doute donc une vérité dans cette absence à soi. C'est ça que j'ai essayé d'interroger. Qu'est-ce que c'est que cette absence à soi ? Et de le faire, non par les moyens de l'essai, mais par les moyens de ce qu'on appelle la littérature, ou en tout cas du roman. C'est-à-dire de trouver des réponses simplement en déplaçant la question. Je n'ai pas de thèse sur la vérité de cette indifférence. Je n'ai pas de thèse sur la solitude de l'être humain dans le monde, dans l'ancien monde minier en train de s'effondrer en Pennsylvanie. Ni la sociologie, ni la psychologie ne sont mon. C'est plutôt un travail de déplacement et de transposition. Comme Barbara Loden d'ailleurs l'a fait en choisissant ce personnage de Vanda pour dire quelque chose d'elle-même. Donc un travail de transposition, ça me semble être le terrain même, le champ même de, j'oserais dire, de l'art. Donc transposer, déplacer, métamorphoser une expérience sous d'autres espèces pour essayer de mieux la comprendre. Et puis peut-être donc de mieux la partager.
On a l'impression que vous variez les angles, un petit peu comme un caméraman pose sa caméra un peu à droite, à gauche, fait des zooms, revient en arrière. On a l'impression que vous tentez de vous approcher au plus près de ce personnage, un petit peu comme vous aviez fait à l'époque pour le livre que vous aviez écrit sur Beckett, Les vies imaginaires de Beckett, qui est un petit. Enfin, alors évidemment, ça n'a rien à voir, puisque Beckett est un écrivain connu, mais très énigmatique. Et en effet, vous aviez choisi aussi, comme ça, de parler de la vie de Beckett en utilisant. En ne parlant que des objets et des choses qui lui. Qui tournait autour de sa vie. Et je trouve qu'il y a un petit peu le même type de fonctionnement dans Barbara Loden.
Par exemple, sur la question du fragment, qui permet cette modification de point de vue, et donc pour ne pas redire aux jeunes écrivains que j'ai rencontrés tout à l'heure, pour ne pas redire la même chose, pour déplacer un peu la question, mais on pourrait y revenir. Hein. Donc le fragment comme position d'écriture qui, à des fins de construction narrative, a un certain rôle. Là, je pourrais dire, selon un autre point de vue, que le fragment m'aide à déplacer le pathétique. Il y a quelque chose d'extrêmement et qui suscite, il y a quelque chose qui suscite l'empathie, bien sûr, l'identification d'abord, parce que enfin c'est fait pour, c'est ce que voulait Barbara Loden. Tous les gens qui ont vu Vanda, enfin. À moins qu'ils ne soient des brutes, mais sont émus, sont troublés par le désarroi de ce personnage. Et raconter ça, y associer le désarroi d'autres figures de femmes qui peuvent venir retentir avec Vanda, et donc prolonger ce qu'a fait Barbara Loden, c'est s'exposer à un monde d'affect très puissant, ce que j'appelle le pathétique, en lui donnant toute sa valeur. Mais il faut le mettre en tension. D'ailleurs j'aimerais en avoir les moyens, hein, je veux dire les grands, pleurer en lisant qu'un écrivain vous fasse pleurer, justement par adhésion, par empathie et en traitant la question du pathétique, c'est du grand art. Ça m'intéresse quand même d'être aussi dans la déprise. Et donc au moment où je m'expose dans le livre, puisqu'évidemment, à travers Barbara Loden et qui elle-même, à travers Vanda, il s'agit de s'exposer. Au moment où je m'expose, je me ressaisis aussi Et la diversité des points de vue, réussir à faire tourner une question qui relève du sentiment, qui cherche à explorer la puissance d'un sentiment, ça me paraît essentiel pour qu'il y ait même ce jeu avec le lecteur, hein, de rupture, d'abandon soudain, de reprise, enfin, différents régimes, je ne voudrais pas dire narratif, parce que c'est un peu technique, mais il s'agit de différents régimes d'expression, différents régimes de récit, tout simplement, de récit.
Et justement, est-ce que le travail de l'écrivain, ce n'est pas d'avoir la bonne distance, justement ? Est-ce que ce n'est pas ça, justement, quand on... Pour s'approcher justement de la vérité d'un être, est-ce que ce n'est pas ça, justement ?
Alors,
l'enjeu de la,
bah, en tout cas,
de la fiction.
Cette bonne distance, elle peut être d'avoir le nez complètement dedans. Et il y a de grandes écritures qui sont justement pas dans la distance. Mais je crois que l'objet, ce serait peut-être moins la question de la distance que de la forme. Je dis ça maladroitement parce que c'est des choses qui m'intéressent fondamentalement, mais sur lesquelles j'ai pas de point de vue. Là, je crois que la théorie peut quand même aider. Et j'ai peut-être pas suffisamment non pas d'appui théorique, mais en fait, j'ai pas suffisamment de mémoire. J'ai un problème de... Ce qui fait que là, par exemple, j'aimerais citer tel ou tel à l'appui de ce que je suis en train de dire, qui est une question passionnante, question de construction littéraire. C'est des choses passionnantes. Et pour ça, me manque un peu la mémoire des grands maîtres qui auraient dit ceci ou cela et qui viendraient à l'appui d'une, non pas d'une théorie, mais enfin de l'esquisse d'une réflexion.
Alors justement, revenons à la vie donc de Barbara Loden, puisque vous avez fait une enquête extrêmement minutieuse. D'ailleurs, est-ce que je peux dire vous ? Puisque le point de départ quand même de ce petit livre, c'est quand même une notice qu'un éditeur vous demande de rédiger, enfin en tout cas demande à la narratrice de rédiger. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire justement si la narratrice est bien vous, ou est-ce que je peux continuer à parler de la narratrice ? Est-ce que vous avez
seule le droit de pouvoir dire ceci ou cela, mais et je n'autorise personne à en décider. Il y a un indécidable qui est essentiel, non pas pour se dissimuler, mais parce que, en effet, comme vous le dites, c'est la question essentielle. Et ça m'intéresse plus de penser le jeu du texte comme non pas comme la possibilité d'être dans l'effusion ou dans l'expression de soi ou d'être le motif d'un réseau d'intentions personnelles. C'est pas ça qui m'intéresse dans le jeu. Ce qui m'intéresse dans le jeu, c'est la question du sujet, c'est la question de cette énigme d'une parole qui peut circuler et qui peut se dissimuler. C'est la question de la ruse, donc de la littérature, de l'élaboration, de la construction, de l'architecture. Le jeu en est un des opérateurs puissants et qui n'a pas fini de délivrer tout son jus, ses ressorts. Bon, donc ça vaut le coup de le prendre au sérieux, et le prenant au sérieux, de ne pas statuer trop vite sur qu'est-ce qu'il recouvre dans l'état civil ou dans la biographie. Mais c'est une question, c'est un work in progress.
Bon, alors donc...
Mais donc l'enquête.
L'enquête. Alors donc, au cours de votre enquête, vous avez quand même découvert que Barbara Loden, qui est un paradoxe, puisqu'elle est, son film est quand même très connu dans le milieu des cinéphiles, etc. Mais en fait, Barbara Loden, on ne la connaît pas. Personne ne sait trop qui c'est, à part qu'elle est la femme de Elia Kazan, qu'elle a joué dans La fièvre dans le sang. voilà, elle est morte assez jeune, donc on ne sait pas grand-chose d'elle. Donc vous avez fait une enquête très, très minutieuse et très détaillée. Vous êtes rendu sur là-bas, dans la région où elle a vécu, où elle est née. Vous êtes allé voir ses proches, ou en tout cas vous avez essayé de voir ses proches.
Oui. Je dis oui d'un air très, très assuré, mais c'est peut-être un leurre total. Mais j'ai fait tout ça.
Enfin, la narratrice l'a fait, en tout cas. Voilà, donc en tout cas, la vie de Barbara Loudon, c'est la vie d'une jeune femme qui vivait dans une province qui ne lui plaisait pas beaucoup, avec un avenir sans grand intérêt. Donc elle en est partie très, très vite. Et donc elle a fait plein de petits boulots. Elle a été artiste un peu itinérante comme ça. Elle a été pin-up dans les années 50. Et puis, elle a fait un petit peu de cinéma, mais comme ça, un petit peu en faisant de la figuration. Et elle rejoint un petit peu le destin d'une autre blonde du cinéma américain. Évidemment, je pense à Marilyn Monroe, qui, elle, finalement, a eu un petit peu le même parcours et s'est soumise, elle, en tout cas, totalement au désir des hommes. Alors justement, je voulais revenir là-dessus, sur le désir des hommes, et parce que dans le livre, alors évidemment Barbara Loudon en parle peu, mais en tout cas dans Vanda, c'est un sujet très 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 important, donc on peut imaginer que c'est quelque chose qui a été aussi important pour elle dans sa vie. Et est-ce que c'est quelque chose qu'on peut retrouver aussi dans le livre que vous aviez écrit sur la Castiglione, qui était aussi une courtisane, qui était aussi soumise au désir des hommes? Est-ce que c'est un sujet comme ça qui vous interroge, et est-ce que c'est de l'ordre du féminin ou pas, ou est-ce que vous faites le lien avec ça?
Je vais continuer ou reprendre ou des éléments de la conversation tout à l'heure, parce que c'est une question qui est venue aussi et qui est intéressante. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous m'avez dit. Et peut-être on reviendra sur la question de l'enquête. Barbara Loudon est la jeune actrice typique des années 50. Hein. Elle est à peine plus jeune que Marilyn Monroe, 5 ou 6 ans. Donc elle appartient vraiment à cette génération des filles qui ont tout fait pour se faire connaître, pour rentrer dans le système. C'était pas Hollywood, mais c'était New York. Donc bon. Elle vient enfance compliquée, pauvre, malheureuse, on pourrait dire comme Marilyn.
Oui, enfin, avec des blessures en tout cas, qui se ressemblent. Oui.
Et puis tentative de percer avec tout ce que ça signifie. Et au fond, toute blonde ressemble forcément à Marilyn dans ces années-là. Il se trouve que Barbara Loudon a interprété le rôle de Marilyn Monroe en 64, dans la pièce After the Fall d'Arthur Miller, après la chute. Et elle interprète le rôle de Marilyn Monroe. Bon, là, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la manière dont Miller ne voulait pas qu'on dise que c'était Marilyn, alors que c'est évident que c'est Marilyn, mais vraiment évident, évident. Et elle y a été formidable, et elle a dit, comme elle a dit d'ailleurs après, pour donc là on est en 64, Vanda, elle le tourne en 70, en 64, elle disait ce qu'elle dira plus tard de Barbara Loudon, c'est-à-dire, mais j'étais ce rôle-là, c'était moi. Bon. Donc principe d'identification dont on pourrait dire qu'il est au cœur même du métier d'actrice, quoique ce soit pas si sûr, en tout cas, elle... C'est moins l'identification au personnage, dans le sens d'une identification provisoire à des fins de bien jouer le rôle, de bien faire le job. C'est vraiment qu'elle trouve. Elle trouve là, elle puise quelque chose qui dit d'elle un truc essentiel. Cette fille, Barbara Loudon, est vraiment une pin-up des années 50-60. Une fille dont on dit, et là plusieurs témoignages concordent, que c'était une dure, une fille qui était capable de casser la figure à un directeur de casting qui avait répandu des rumeurs pas très sympas, etc. Bon. Or, il se trouve qu'au moment où elle met en scène quelque chose, où elle construit un objet qui n'appartient qu'à elle, qu'elle écrit, qu'elle réalise et qu'elle interprète, qu'elle écrit, qu'elle interprète, qu'elle réalise, au moment où elle fait ça, c'est-à-dire son objet, elle choisit le personnage qui est le plus dans l'abandon, dans le... Et elle ne cesse de dire, ça, donc, dans les innombrables entretiens que j'ai trouvés aux États-Unis, elle ne cesse de dire qu'il y a eu un principe d'identification, d'adhésion fondamentale et qui a justifié tout. J'ai oublié le point de départ, mais il y a les questions des hommes.
Oui, il y a les hommes.
Comment je pourrais raccorder ça?
Alors, Marilyn.
C'est-à-dire, ce que...
Oui, on parlait du féminin, en fait.
Cette femme qui a l'air de maîtriser beaucoup de choses, elle a réussi à séduire Elia Kazan. C'est pas facile parce que des blondes autour d'Elia Kazan, toutes savaient qu'il avait un faible pour les blondes, comme ceci, comme cela, un peu vive, un peu insolente. Donc ça tournait beaucoup et c'était un enjeu pour des actrices. Je veux dire, c'était bon. Kazan, c'était vraiment le monstre sacré, hein, quand même, malgré les histoires de la commission américaine, très grand réalisateur et puissance dans le cinéma donc, et le théâtre. Et le théâtre, Kazan, bien sûr. Et donc, elle est absolument dans son temps et en même temps, ce qu'elle veut montrer, et là, il faut quand même y insister, à son époque, être une femme et faire du cinéma aux États-Unis, c'est non, d'une certaine manière. C'est-à-dire, c'est rarissime. Elles sont très rares à cette époque-là. On cite toujours les quatre films d'Ida Lupino, qui a d'ailleurs fait... C'était plus tôt. Mais c'est rare. C'est beaucoup plus européen. Comme, c'est rare. C'est vraiment un système très fermé... pour des tas de raisons de corporation, et dans lesquelles les femmes, finalement, moins qu'en Europe, pénètrent. Donc il faut vraiment le vouloir. Et ce qu'elle veut, c'est dire quelque chose. C'est dans une forme d'aveu, mais d'aveu totalement construit, totalement élaboré, encore une fois, transposé. Et ce qu'elle dit, c'est d'abord ça. Être face à l'autre. Et encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, la question, je le crois, n'est pas, je ne veux pas nier l'importance des combats féministes, etc. Enfin, il y a un statut particulier de la femme et de son rapport à la séduction, mais il n'y a pas de question du féminin, sauf à penser que dans l'homme il y a du féminin, etc. En tout cas, être face au désir de l'autre, être face à l'autre et être face à son désir, c'est une question difficile. Se soumettre au désir de l'autre, être dans la nécessité de répondre, dans l'obligation de répondre qui vous est souvent faite, dans la nécessité d'imposer d'être dans la puissance, d'être dans... J'évoquais tout à l'heure cette injonction qui est faite aux femmes d'être brillantes, cinglantes, triomphantes. Bon. Il faut dire le désarroi et la difficulté d'être face à l'autre, et d'être face au désir de l'autre, et l'importance aussi, je parlais, je crois, en commençant, de la vérité de l'indifférence, de la vérité de la soumission, c'est pas tout à fait la même chose, bien sûr, mais de l'importance de l'esquive. Il y a une force, il y a une vraie réponse dans la non-réponse, là je parle pas de ce que je ne connais pas, enfin, je pense au zen là où il y a une vérité à échapper, et c'est quelque chose autour de quoi Vanda travaille, et je crois que c'est une des choses que Barbara Loden a voulu expérimenter, cette difficulté à vivre, cette difficulté à savoir pourquoi on est là, et cette difficulté à crier, à se défendre, à se débattre. C'est pour ça que quand le moment vient dans le film où elle le fait, c'est un moment capital. Et je crois qu'il est tout aussi capital qu'après ce moment-là, au fond, elle retombe dans... parce qu'on le sait bien soi-même, on peut être appelé par les événements, par la situation, à un geste qui vous dépasse vous-même, ou un geste juste, ou un... et ne pas le trouver pour toujours, et être contraint de revenir à soi, c'est-à-dire à un faisceau de contradictions, d'impuissance et d'effarement face à la vie. Je veux pas être pathétique, voilà. Là, devant le micro, il me manque l'écriture pour être un peu cinglante et pour partir ailleurs. Je sais pas si j'ai répondu à ces questions que vous me posiez.
Mais moi, ce que j'aimerais savoir aussi, c'est qu'on sait que Barbara Loden a eu un compte à régler quand même avec Kazan, à partir du film qu'il a réalisé, qui s'appelle L'Arrangement, où il raconte, il parle de lui et de son état d'esprit à ce moment-là de sa vie, etc. Enfin, c'est très autobiographique, et il parle, en tout cas, il s'est autorisé à parler beaucoup aussi de sa femme sous les traits de la maîtresse du personnage principal, en disant beaucoup de choses de leur intimité, sans lui demander son avis d'ailleurs. Et pour elle, ça a été déjà une trahison. Mais la plus grosse trahison, surtout, ça a été que quand l'arrangement est devenu un film, parce qu'au départ c'était un roman et puis après un film, il n'a pas su ou pas voulu peut-être l'imposer comme actrice de ce film-là, puisque c'est Faye Dunaway qui a joué ce rôle-là, alors que il y avait une grande partie de ce film qui était des choses
personnelles,
voilà, très très personnelles, très intimes.
On trouve peu de choses sur la vie de Barbara Loden.
Ça parle de ça, vraiment. Enfin, il y a une espèce d'humiliation quand même. Je pense qu'elle avait vraiment des comptes à régler par rapport à
sans
ça.
Sans doute, oui. Leur histoire a été très tumultueuse. Mmh. Hein. Très tumultueuse et plutôt placée sous le signe de la riposte permanente, de la nécessité de l'emporter sur l'autre. Enfin, c'est une relation très passionnelle d'une part, mais aussi très conflictuellement. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, là encore, il est question d'adhésion, d'identification, de trahison d'un principe de trahison de cette adhésion. On trouve peu de choses sur Barbara Loden, et là où finalement on pourrait s'approcher avec toutes les réserves, bien sûr, qu'il convient de mettre, on pourrait s'approcher de sa biographie, c'est dans le livre de celui qui a été son mari. Personnellement, je n'y accorde pas plus de non pas de foi, c'est pas la question, mais d'importance que en tout cas certainement moins qu'aux entretiens qu'elle a donnés. Sauf que on sait, parlant de ce livre que vous évoquez, donc un roman d'Elia Kazan, dans lequel il raconte, c'est romancé, il y a des personnages, etc., mais il raconte l'histoire d'un type marié, il était marié, et qui déraille complètement, et de sa maîtresse. Donc, il avait une maîtresse, c'était Barbara Loden. Bon, c'est pas ça qui fait qu'on se dit, roman à clé. C'est que Kazan lui-même a dit, j'ai tout mis là de mon histoire. Et c'est que Barbara Loden a également dit, il a tout pris de mon histoire. Et je crois que cette chose-là était possible pour elle. Et sans doute que ce roman, dans leur histoire, a été un moment important, parce qu'au fond, on peut consentir à voir son intimité inscrite, puisqu'elle a été partagée avec un autre, inscrite dans un objet que l'autre construit. Mais il est vrai qu'au moment où Kazan a voulu tourner le film de son livre, Le box-office, ou je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, le système cinématographique américain, hollywoodien, pour tout dire, a refusé que ce soit Barbara Loden, qui n'était pas assez connue, qui interprète le personnage féminin. On pourrait aussi dire que il y a 15 ans, ce n'est pas vraiment suffisamment battu pour que Barbara Loden puisse interpréter celle dont elle était le... Comment est-ce qu'on peut dire ? Le modèle, la source, bon. Ce qui aurait pu être un désir légitime, mais comme quoi, peut-être que c'est quand on est trop proche, justement, que c'est pas possible. Mais surtout, pour elle, c'était aussi le moyen... Après tout, il s'agissait de sa propre histoire, et c'était surtout l'occasion pour être dans un... Enfin, voilà, pour avoir un premier rôle. Dans les autres rôles de Kazan, c'était troisième rôle ou second rôle. Là, grand rôle aux côtés de Kirk Douglas. Donc, il y a eu une trahison d'un pacte, alors ce n'est pas le pacte autobiographique, c'est un pacte biographique où, à deux, quelque chose de leur vie est exposé, mais ça n'est pas elle qui l'interprète, et elle en a ressenti beaucoup d'amertume. Et donc c'est vrai que ce qui est dit dans le roman, ce qu'on peut, mais de manière légère, sans trop, sans se tromper, le roman ça n'est pas la vie, le personnage ce n'est pas Barbara, mais il y a quand même un répertoire de formes, on va dire, qu'on peut examiner sur la base de ce que l'un et l'autre ont dit. D'éléments biographiques relatifs à Barbara Loden, et notamment, Kazan le dit, Kazan qui avait eu une histoire dans les années 50 avec Marilyn Monroe, il dit qu'il y avait beaucoup de choses entre elles, sans doute autour de quelque chose qui tournerait autour d'une enfance soumise à la violence, peut-être au viol. Enfin, voilà, il laisse entendre tout ça, et dans des entretiens, d'ailleurs, il a... que je ne mentionne pas forcément, mais il a dit à quel point, si j'en mentionne un, à quel point la similitude des itinéraires, des biographies l'avait frappé, et c'est sans doute de ce point de vue-là qu'il parlait.
Oui, alors...
Je suis trop retard. Je peux continuer alors.
Non, voilà. En fait, on retrouve... Enfin, je trouve que dans Vanda, justement, on retrouve finalement cette espèce de regard un peu distant. Enfin, il y a un regard un peu moqueur sur les hommes. On ne peut pas dire que les hommes soient à leur avantage dans Vanda. Elle est, bon, en effet, elle est soumise un petit peu aux hommes qu'elle rencontre, mais enfin bon, ils sont tous plus lâches et imbéciles les uns que les autres, enfin la plupart, hein, même le dernier, puisque le dernier meurt, il meurt par bêtise, parce qu'il n'a absolument pas préparé son coup, donc voilà, il y a ça un petit peu, on n'a pas l'impression, alors elle règle sûrement pas des comptes, mais elle laisse paraître des choses. Chose, je trouve.
Non, j'ai pas le sentiment parce que elle non plus cette
Vanda.
Alors
c'est vrai qu'elle c'est un petit clown elle aussi, hein. Elle a un petit côté clown elle aussi d'ailleurs, je trouve.
Donc je crois que la question c'est pas de, c'est ce qui fait aussi la force de ce chef-d'œuvre, hein. C'est il y a pas de leçon jamais, ni dans la typification des personnages ou des situations. Ni dans la manière dont le film est construit, avec cette espèce de fin très suspendue. Donc, je ne crois pas qu'elle mette en scène une idée des hommes, parce que ce qu'elle met en scène, à l'évidence, il y a un projet, je ne crois pas que ça se situe là. C'est vraiment sur... C'est difficile à exprimer. C'est difficile à... c'est là. Et ça relève vraiment de ce qui est, oui, l'équilibre, ou plus exactement le déséquilibre, les écarts imperceptibles, les désaccords imperceptibles ou flagrants entre soi et le réel. C'est ça, c'est pour ça que c'est difficile à dire et que ça a besoin d'être mis en mots. Donc, pour le coup, différer, distancer. Mais c'est ça qui l'intéresse. Donc ça demande... C'est pas une leçon sociale, bien qu'elle ait dit que ça l'intéressait. Elle dit qu'elle a lu Zola, qu'elle a lu Maupassant, qu'elle... c'est... ça ne parle que de nuances. C'est vraiment... Ce film est fracassant. Il est cinglant dans sa beauté, dans sa... Mais il ne fait que parler d'infra. Je crois, hein. Peut-être que quelqu'un pourrait se lever en disant « Mais non, il y a un discours sociologique à tenir là-dessus. Non. Le choix de la Pennsylvanie, des milieux, de la houille, etc. n'est pas un hasard, et c'est vrai. Et il faut prendre au sérieux, et je crois que c'est vrai, ce que Barbara Loden dit quand elle, voilà, quand elle s'intéresse à Zola, à Céline, à... moi, j'en suis incapable. Céline, oui, ça c'est. Je suis incapable de défendre et illustrer le travail de Barbara Loden du point de vue d'une sorte de travail sociologique ou de désir de travailler sur le réalisme. Voilà, je crois qu'il s'agit plutôt de cet art de la. De la nuance, de la défection, de ce qui manque, de ce qui est... Et c'est d'ailleurs pour ça, je reviens à la question du pathétique, qu'il est important de faire grincer parfois les choses, d'être moins... on parlait tout à l'heure du bon affaiblissement, qui est un principe beckettien, d'affadir parfois les choses après les avoir mis sinon en apothéose, n'exagérons pas, mais enfin, de les avoir fait un peu vibrer... De les calmer. C'est important de temps en temps d'essayer d'accompagner le burlesque qui est dans le film. Enfin voilà, Barbara Loden fait ça merveilleusement. C'est vrai qu'il y a du clown dans ses personnages et que c'est une, j'en suis sûre, elle ne l'a pas dit, mais c'est une manière de contredire. Il faut contredire, de contredire le sentiment.
On pourrait revenir à l'errance, donc, puisque ce film, c'est quand même une longue errance, hein, donc, d'une femme donc, en quête de sa vérité, on peut dire ça comme ça. À un moment donné, vous faites intervenir votre mère, enfin la mère de la narratrice, qui vit un petit peu la même chose le jour de son divorce, quand elle va se retrouver pareil, aérée dans un centre commercial, sans trop savoir où elle va aller et jusqu'à quand. À ce moment-là, on sent justement que vous avez voulu justement dévier un petit peu votre sujet sur quelque chose de plus intime. Alors est-ce qu'on peut parler d'autofiction, ou en tout cas est-ce que ça vous a tenté à ce moment-là? Est-ce que l'autofiction vous a tenté? Est-ce que vous aviez envie d'en parler? Parce que déjà dans La Castiglione, il était question aussi de moments douloureux dans votre famille, etc. Et donc on retrouve un petit peu des choses comme ça. Alors j'ai dit votre famille encore une fois avec la distance. Voilà. Donc est-ce que c'était quelque chose que vous aviez envie
pour vous mettre à l'aise avec ça? Je me souviens d'un entretien un jour avec Alain Weinstein sur France Culture. Donc je mentionne le cadre, ça veut dire une longue conversation un peu étirée comme ça. Il me pose une question et je réponds. Il me pose une question sur le personnage, donc la narratrice. Et je réponds, oui, je ceci. Et il me dit, non, pas vous, la narratrice. Et à ce moment-là, je me suis entendue dire, oh pardon, la narratrice. Donc, c'est dire si moi aussi je. Ce oh pardon, je me point encore. Alors, Non, c'est pas. Je sais pas quel est le mot que vous avez utilisé. C'est pas marginal ou latéral.
Non,
c'est central.
Oui, ça.
Qu'on soit bien d'accord. C'est central, c'est-à-dire, il y a plusieurs choses finalement quand on écrit. Il y a le prétexte, il y a le mobile, le sujet. Je sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça. C'est-à-dire quelque chose d'absolument, un objet absolument essentiel qu'on va sérieusement, c'est pas le bon mot, mais le plus sérieusement possible, dont on va le plus sérieusement possible s'emparer. Par exemple, le sujet de la Castiglione, immense, riche, passionnant. Par exemple, Vanda, Barbara Loden, etc. Il y a ça. Il y a ce qu'on veut dire quand même de l'écriture ou de ce qui intéresse dans l'objet littéraire, très important aussi. Puis il y a une autre couleur avec laquelle qui tresse le tout, c'est, je ne sais pas si c'est plus important ou pas, mais c'est un point qui est un point énigmatique, secret, et qui motive. Et c'est pas la même chose que mobile, mais qui motive, qui suscite, qui est au cœur de tout ça. La Castiglione, Barbara Loden, au fond, ce sont que des prétextes, de grands prétextes, qu'il faut embrasser généreusement. Mais ce ne sont que des prétextes à dire autre chose. Et qui peut s'exprimer, donc qui choisit de s'exprimer à travers cet hommage rendu à cette figure-là. La mère. Et donc, c'est quelque chose qui est fondamental. Parce que là aussi, il y a un principe d'identification. Je crois que quand qui que ce soit dit, il y a des mots, des figures, la mère, il y a quand même un rapport d'identification ou de répulsion. Il y a quelque chose de soi-même qui se dit à travers ce personnage-là. C'est fondamental. Donc, et la question du divorce, il y a un divorce dans, enfin, c'est-à-dire, c'est des motifs qui se font écho, un divorce. Bon. Mais dans l'histoire de la mère, comme dans celle de Vanda, c'est que tout commence dans l'espace de l'écriture par un moment de séparation radicale extrêmement douloureux, quelles qu'en soient les figures. Dans Vanda, c'est elle qui dit, elle dit avec une espèce de manière abandonnée qui est terrifiante. Divorcez-moi de lui. Elle met le mot à la forme passive. Dans le cas de la mère, c'est un moment d'accusation, de violence, d'iniquité. Et donc, c'est ces motifs-là qui sont essentiels, qui sont comme une espèce de foyer dans l'écriture, qui lance des comme le feu sous dans Centralia, dans la mine, quoi. Le feu est au-dessus, ça suit son cours. Bon, ça a cette puissance-là, ce fil-là. Ça n'est pas un fil narratif de plus. Ça s'entremêle, ça s'entrelace avec. Il y a des équilibres, bien sûr, mais c'est un foyer.
Bon, eh bien, je crois que cette rencontre se termine. Mais oui, mais c'est l'heure, je crois. Je vous remercie. Voilà. Merci.